Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle qui s'est déroulée à l'université d'Artois et qui était co-organisée par deux associations étudiantes, les LHD Bloc et les Roadrunners, beaucoup d'intervenantes et d'intervenants étaient invités pour évoquer ce sujet. Avant de retrouver une membre de l'association Les Culottes Rouges, on écoute un entretien avec Nadia Plat, qui intervenait pour évoquer les règles dans l'Antiquité, et plus précisément au Moyen-Âge.
Alors, moi en fait, je suis étudiante doctorante en histoire médiévale, donc je fais une recherche sur le Moyen-Âge, sur la vision des menstrues au Moyen-Âge. Donc ma période de prédilection, c'est le Moyen-Âge, et plus précisément la fin du Moyen-Âge, 12e, 15e siècle. Mais en fait, quand on travaille sur cette période, on voit que de toute façon, il y a des tas de croyances qui remontent à des périodes plus anciennes, et y compris à l'Antiquité. Donc là, je vais vous parler d'Antiquité gréco-latine et de Moyen-Âge occidental.
Qu'est-ce qu'on pourrait y entendre alors dans cette conférence ? En résumé, évidemment, je ne vais pas vous demander de la refaire.
Non, alors en résumé, bon, j'ai mis comme sous-titre « Pratique et discours sur les menstrues dans l'Antiquité au Moyen-Âge ». Donc l'aspect pratique, c'est la question en fait qu'on se pose tous, qui vient à l'esprit, et que me posent toutes les personnes à qui je dis que je fais une recherche là-dessus, c'est comment faisaient les femmes ? Et en fait, on n'en sait rien, mais bon, on a des petits indices. Donc je me présenterai quelques petits indices qui permettent de savoir, peut-être pas comment c'était les femmes, mais comment telle femme a tel moment, dans tel cas précis, des petites pistes. Et puis après, les discours, il y a surtout deux grandes catégories de discours qui sont les discours médicaux et les discours religieux, théologiques. Et puis après, je parlerai un petit peu d'autres choses, d'autres discours, comme par exemple des discours littéraires et des choses un petit peu inattendues aussi, puisqu'on a aussi des visions positives de la menstruation au Moyen-Âge.
Ah, alors il y a peut-être un exemple, un indice.
Déjà, même au point de vue de la religion, tout n'est pas si sombre qu'on croit, parce qu'on a par exemple un pape du 4e siècle qui dit que finalement, avoir ses menstrues, c'est pas un péché, enfin ça vient du péché originel, mais pas plus que le fait d'avoir froid ou d'avoir soif ou d'avoir faim. Un aspect par exemple plus sympathique, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de sources féminines, mais on en a quand même quelques-unes. Et ma préférée, c'est la religieuse Hildegarde de Bingen du XIIe siècle, qui a beaucoup écrit, et notamment un ouvrage de médecine dans lequel il y a un énorme chapitre sur les règles. Et elle en parle d'une façon vraiment très positive, qui même est encore surprenante à lire aujourd'hui, et très belle aussi, très poétique.
Est-ce que vous allez aussi aborder le sujet de l'hygiène, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de serviette spécifique, il n'y avait pas de protection.
Alors c'est de ça que je parlais quand je parlais des pratiques, comment faisaient les femmes, c'était justement est-ce qu'elles avaient des protections, et je voudrais un petit peu aussi... parce qu'en fait, je fais une recherche sur la vision des gens au Moyen-Âge, mais j'aimerais démarrer aussi un petit peu ma conférence par la vision qu'on a de la vision. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Quand je regarde Internet, je vois beaucoup de blogs ou de vidéos ou de sites Internet où on dit « de toute façon, au Moyen-Âge, elles n'avaient pas de protection menstruelle, elles laissaient couler le long des jambes ». Et on n'a rien qui nous indique ça dans les sources. Alors on n'a rien non plus de très précis qui nous dit comment elle faisait, mais comme je vous ai dit, il y a quelques petites pistes. On parle en tout cas de tissus en lin, de choses comme ça. Donc non, à mon avis, elle ne laissait pas couler, pas plus qu'aujourd'hui.
Comme c'est encore tabou aujourd'hui, parce qu'autrefois c'était encore plus tabou chez les hommes les menstruations.
Ça fait justement partie des idées reçues que je voudrais un peu bousculer, parce que finalement, moi quand je lis les textes du Moyen-Âge, j'ai l'impression que c'était moins tabou qu'aujourd'hui, en tout cas tabou dans le sens où on n'en parle pas. Ne serait-ce que par exemple quand j'ai démarré ma recherche, j'ai commencé par utiliser un site internet qui regroupe des corpus de textes en latin présents sur internet, et en tapant le début du mot latin pour menstrue, il y avait 1600 occurrences. On en parle énormément. effectivement. Et les raisons pour lesquelles on en parle, c'est dans le discours médical, parce que on pensait que c'était important pour la régulation du corps, donc il fallait en parler, parce que sinon il y avait des risques pour la santé. Et dans le discours théologique, parce qu'on se posait plein de questions sur est-ce qu'une femme menstruée peut rentrer dans une église, est-ce qu'elle peut communier, et est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles avec une femme menstruée. Donc toutes ces questions-là faisaient qu'on en parlait énormément, en fait.
Je vais m'éloigner un tout petit peu du sujet de la conférence peut-être, mais il y a aussi lors de cette semaine des ateliers, des conférences et des discussions, des témoignages surtout de femmes atteintes d'endométriose ou de syndrome d'ovaire polykystique qu'on connaît encore très peu. Est-ce qu'il y a des pistes aussi? Est-ce que l'endométriose c'était possible avant, autrefois éventuellement?
Alors en fait c'était pas possible d'avoir vraiment une idée précise de ces maladies telles qu'on les a maintenant, tout simplement parce que en fait le phénomène lui-même de la menstruation n'a été vraiment compris qu'au 19e siècle, et même l'ovulation ça n'a été compris qu'au 19e siècle, donc on n'imaginait pas ça. Mais par contre on a vraiment des textes médicaux très précis qui décrivent des maladies précises et qui décrivent comment y remédier. Alors est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas, je ne sais pas. Et puis peut-être qu'il y a des choses d'ailleurs qui sont pas si stupides que ça, hein. Il y a beaucoup de recettes à base de plantes, et bon, j'avoue que moi comme je suis plus dans le travail sur la vision, je me suis moins préoccupée de ça, mais je sais que j'ai déjà lu des travaux d'autres étudiants ou d'étudiantes qui se sont plus intéressés à l'aspect médical et justement au traitement par les plantes, et il y a des choses qui finalement sont encore utilisées aujourd'hui.
On retrouve à présent au micro de Laura pour Radio PFM, une membre de l'association Les Culottes Rouges, pour évoquer entre autres la création d'un jeu de cartes qui parle des menstruations.
Je m'appelle Priscilla, j'ai 33 ans, je suis la créatrice du compte TDPM et moi, où je partage mon expérience avec le trouble dysphorique prémenstruel. Je suis l'autrice du bullet agenda spécial cycle menstruel. Du coup, c'est un agenda qui permet aux femmes de suivre leur cycle de manière cyclique. Et la présidente de l'association La Culotte Rouge. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on est à l'université d'Artois et que nous sommes réunies toutes les deux. On anime des ateliers sur le cycle menstruel et on crée du matériel pédagogique, dont le jeu de cartes qui s'appelle Sans tabou d'ailleurs, en exclusivité. Donc un petit rappel de la semaine Sans tabou que tu as organisée à Arras. Et ce jeu, c'est clairement, qu'on a appelé, c'est le jeu avec ou sans règles. Ça va permettre du coup de briser les tabous autour d'une bonne partie de jeu de cartes.
Ouais, alors justement, explique-moi comment il est construit ce jeu.
Alors, comment il est construit? Du coup, moi, je voulais pas que ça soit qu'un jeu pédagogique et ludique. Je voulais qu'il y ait une partie stratégique de la même manière quand on joue au Uno. Donc, en fait, c'est un jeu éducatif et stratégique. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de compléter son cycle menstruel, être le premier ou la première à compléter son cycle menstruel et d'avoir atteint 400 points de quiz. Donc, on a cette partie complète ton cycle menstruel, donc qui est la partie stratégique, et 400 points au quiz qui permet de renchérir ses connaissances sur le cycle menstruel.
Alors dis-moi, il permet aussi d'éduquer peut-être à certaines maladies. Il y a quoi concrètement dedans? Qu'est-ce que je peux retrouver? Qu'est-ce que je peux apprendre avec ce jeu?
Alors, il y a des questions, on a différents thèmes, donc on traite les troubles, les maladies gynécologiques, croyances et tabous. Il y a aussi un thème sur tout ce qui est protection périodique saine. On aborde aussi le savais-tu, par exemple, quand est-ce que la première fois qu'on a eu du vrai sang dans les publicités à la télé.
Est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'il sort ce jeu? Quand est-ce que je vais pouvoir jouer, moi?
Alors oui, c'est un jeu qui est très attendu, on a pris du retard. Le jeu sort début avril, donc on a vraiment hâte. On a pris un peu de retard, mais on est vraiment très très satisfaite du résultat final. Et j'espère qu'il te plaira.
Alors, il a été construit comment ce jeu? Vous l'avez construit entre femmes? Vous en avez discuté? Je crois qu'il y a eu une petite cagnotte aussi pour le financer avec des gens justement qui ont été très intéressés quand tu dis qu'il est très attendu.
Exactement. Donc, pour la création de ce jeu, on a participé à une cagnotte Ulule. Donc, on a récolté les fonds nécessaires pour, du coup, la création de notre jeu de cartes. On a aussi été sponsorisé par la marque Sister Republic, avec qui, du coup, on a co-brandé le jeu de cartes. Et on l'a construit entre femmes. Des hommes aussi nous ont donné leur avis. On l'a fait tester à plusieurs personnes, donc étudiants. J'y ai joué en famille avec mon père, ma mère. Donc c'est un jeu qui est familial, qui est accessible à tous. Du coup, c'est à partir de 11 ans. Et on va pouvoir jouer en équipe aussi. Donc il y a aussi on a rajouté dans le jeu cette partie solidarité, parce que donc tu en parles beaucoup, la précarité menstruelle. Donc on a une carte qui s'appelle précarité menstruelle, qui est débloquée par une carte protection périodique. Et en fait, dans le jeu, si tu veux, tu peux donner ta carte protection périodique à une autre joueuse pour la débloquer de sa situation. Donc
Et tu vas pouvoir l'utiliser pour tes ateliers alors ?
Voilà, le but vraiment c'est de l'utiliser durant les ateliers, parce que nous, notre volonté c'est vraiment d'avoir des ateliers qui soient vivants, éducatifs et ludiques, et pas vraiment des lectures comme on peut voir du coup à l'université. On veut que ça bouge, on veut que les gens puissent échanger, que les gens puissent débattre, et surtout on veut pouvoir rigoler, parce que je pense que le meilleur moyen de briser les tabous, c'est d'en rire.
Alors, on l'aura compris, ces ateliers autour de tout ce qui est maladie gynécologique, troubles, du cycle menstruel en fait, est-ce qu'ils s'adressent à des publics jeunes? Tu les adresses à quel public en fait? À des primaires? À quel moment t'interviens?
Alors du coup, nous, c'est vrai que notre cœur de cible, c'est les 10-14 ans, parce qu'on veut vraiment toucher les personnes menstruées dès leurs premières règles, pour leur donner toutes les clés nécessaires pour vivre des cycles heureux. Par contre, on a conscience qu'à cet âge-là, on n'a pas toujours toutes les décisions, parce que par exemple, on parle aussi de l'importance de l'alimentation, mais à cet âge-là, concrètement, c'est les parents qui choisissent pour nous. Donc c'est notre cœur de cible, mais aussi c'est les étudiants, parce que c'est plus simple. Ils vont rentrer dans la vie active et à ce moment-là, ils vont pouvoir faire leurs propres choix et du coup, faire peut-être les bons choix concernant leur cycle menstruel.
Mm-hmm. Je fais un petit bilan aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as présenté aux étudiants, justement?
Alors aujourd'hui, on a eu une présentation du coup générale et globale du cycle menstruel. Donc on est revenu sur les croyances et tabous, le suivi et l'observation de son cycle menstruel, parce que c'est important de savoir comment suivre son cycle. On a aussi parlé de ce rapport avec le cycle menstruel et les études, parce que c'est important, on est dans une université, mais comment ça impacte ma vie en tant qu'étudiant. Et on a également vu les troubles, les maladies gynécologiques, comme l'endométriose ou le trouble dysphorique prémenstruel, qui, on le sait aujourd'hui, perdure de l'errance médicale qui peut aller jusqu'à 10 ans.
Alors, je crois que tu es intervenu il n'y a pas longtemps à l'université de Reims, c'est ça ?
Alors, on a intervenu, non pas l'université, l'école de commerce, Neoma Business School. Et pareil, du coup, c'était pour moi important de venir ici. Et merci de m'avoir invité à l'université d'Arras. Mais c'est un peu les mêmes retours. Et pour moi, je pense que maintenant, on va vraiment aussi se focaliser sur les étudiants. Parce que j'ai fait aussi une école de commerce. Et j'ai eu, à cause de mon cycle, j'ai dû arrêter des moments. Du coup, mes études. Donc, pour moi, c'est important de donner, de transmettre en fait ce que j'ai pas eu et de permettre que d'autres n'aient pas à arrêter leurs études à cause de leur cycle menstruel.
Tu nous partages, toi, parce que tu souffres du trouble dysphorique prémenstruel. Voilà, je me trompe pas. Et du coup, tu partages tout ça sur les réseaux, donc sur Instagram.
Oui, alors j'ai créé la page en 2019 parce que du coup, j'ai vécu 10 ans à Londres et quand je suis revenue sur Paris, je suis revenue pour me soigner en fait parce que j'allais très mal à cause de ce trouble et je venais de le découvrir à Londres. Je me suis dit je vais rentrer en France parce que du coup les médecins ont peut-être plus de connaissances en France, ça sera beaucoup plus simple. C'est ce que je me suis dit mais ça n'a pas du tout été le cas. Et vu que j'étais dans une très grande détresse et qu'à Londres ce qui m'aidait c'est de suivre des pages de personnes qui partageaient leur expérience, j'ai cherché et du coup en français et j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit bon ben je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même situation et j'ai créé la page TDPM et moi et pour moi ça a été une vraie libération. Cette page m'a aidée aussi à aller mieux, à libérer la parole et du coup à parler beaucoup plus de santé mentale par exemple parce que la santé mentale, faut le savoir, est très liée au cycle menstruel.
Tu me dis où on peut te retrouver pour finir et échanger avec toi autour de tout ça et puis peut-être rassurer certaines personnes aussi et les accompagner.
Exactement, donc vous pouvez me trouver sur le compte TDPM et moi et vous pouvez aussi suivre le compte La Culotte Rouge où vous aurez toutes les infos concernant le jeu ou se procurer le jeu.
C'était un sujet autour de la semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle qui s'est déroulée à l'Université d'Artois et qui était co-organisée par deux associations étudiantes, les LHD Bloc et les Roadrunners. Interview réalisée avec la complicité de Laura, étudiante à l'Université de Valenciennes pour Radio PFM.